Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Paul Couturiot qui vient nous parler de son roman Les Disparus de la Cour d'Or, publié aux éditions Terre de France. Avec nous également Raymond Hiss, trésorier de l'ADIL, l'association de défense et d'illustration des littératures en Lorraine, qui va nous parler du Salon du Livre de Villers-les-Nancy ainsi que du prix Victor Hugo qui sera décerné lors de ce salon du 18 mars. Et enfin avec nous John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Le vol de l'oiseau. Bonjour messieurs, j'espère que tout va bien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons commencer avec Raymond. Raymond, tu peux nous dire quelques mots sur l'ADIL, s'il te plaît ?
Alors l'ADIL, l'Association pour la Défense et l'Illustration des Littératures Lorraines, fête cette année son 20e anniversaire et organise donc son salon le 17 mars à Villers-les-Nancy, au centre des Écraignes, rue Albert Ier, en face du château de Madame de Graffigny. Donc l'association réunit des auteurs lorrains. Et il y en aura donc une cinquantaine aux Écraignes, dimanche. C'est ouvert de 10h à 18h. Et le public pourra découvrir donc des ouvrages qui ne tiennent pas seulement à la Lorraine, mais qui appartiennent à tous les genres littéraires, à la science-fiction, au fantastique, la bande dessinée, les récits d'aventure, les romans policiers, etc. Enfin, il y en aura pour des romans jeunesse également. Il y en a pour tous les goûts.
Mmh. Et donc... Il y a également la remise du prix Victor Hugo.
Ah oui, le prix, comme chaque année, la remise du prix Victor Hugo. Donc le prix Victor Hugo sera remis au lauréat au cours de ce salon. Le jury a reçu une vingtaine d'ouvrages environ depuis le début de la session. Il en a retenu trois. Présélectionné, et c'est le président du jury et également invité d'honneur du salon qui désignera le lauréat. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il faut parler des trois lauréats ?
Bah, un petit peu.
Un petit peu, oui. Alors, parmi ces lauréats, donc, nous avons Aurélie Genet, qui a publié donc, La Nouvelle Nancéide aux éditions La Loutre de Béryl. La Nouvelle Nancéide est une uchronie. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais qui savent par exemple qu'en 1477 a eu lieu devant Nancy une grande bataille entre le duc de Lorraine et le duc de Bourgogne, si vous ne savez pas qui a gagné, eh bien lisez La Nouvelle Nancéide, vous aurez une surprise.
Voilà.
Et donc, c'est une uchronie, mais qui se poursuit tout au long du siècle et pendant quatre siècles avec des vengeances sanglantes entre les descendants des protagonistes de cette affaire. Le deuxième auteur, c'est Marie-Josée Gonnant, avec Les Silences d'Irène, aux éditions Territoires Témoins. Elle nous avait déjà proposé les autres années deux autres romans, La Ronce et La Fille oubliée. Et elle nous sort un ouvrage sur un thème semblable, un secret de famille. Irène, une grand-mère assez dynamique, va rendre visite à son vieille amie sur l'île Dieu et vont ressortir des affaires de famille qui datent d'il y a 50 ans. Elle est accompagnée d'une jeune femme dont elle ignore un peu les origines, mais qui va se révéler particulièrement toxique. Donc ça se termine dans le drame, quoi. Et enfin, la troisième, Animacy, Le tombeau de Sabinus Cyrus, aux éditions Le Pythagore. Là, on est dans le roman policier. Elle nous sort donc son troisième roman avec son héroïne Colombe, l'archiviste, et le capitaine de police Charles Drapeau. C'est une histoire policière qui est basée sur les problèmes de trafic d'œuvres d'art. Donc la pauvre Colombe devra affronter deux terribles trafiquants qui n'hésitent pas à tuer pour parvenir à leur fin. Et le suspense tient autant à cette affaire qu'à l'histoire d'amour entre elle et le capitaine qui n'aboutira pas, quoi.
Oui, l'histoire d'amour difficile.
Voilà. Donc c'est des autrices, d'ailleurs ces trois femmes, qui remportera donc le prix Victor Hugo le 17 mars.
D'accord. Eh bien... Venez nombreux.
Pardon ?
Venez nombreux.
Oui, bon, on vous encourage à venir, bien entendu. Donc, c'est un endroit qui est connu, c'est en face du château de Madame de Graffigny. Parking assuré, entrée libre.
Soleil compris.
Comment ? Le soleil, non, mais le pas trop de soleil, parce que les gens ne viennent pas se renfermer dans des salles quand il y a trop de soleil.
C'est vrai, alors. Soleil ombragé.
Oui, voilà.
Eh bien, merci Raymond. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Alors, comme nous allons parler beaucoup de la Lorraine, j'ai choisi des chanteurs lorrains. Donc, voilà. Et nous allons écouter Patricia Cass, bien sûr, Le jour et l'heure.
Dans son café rêveux, un nuage de lait. Puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. Il y avait en ville des miroirs au pavé. C'était un jour de pluie et de vitrine en cours. J'étais comme le ciel étendu sans nuance. Ma valise était faite, une embellie passait. Je n'attendais personne, j'aimais bien ce silence. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure où tout a basculé, l'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné. Le jour de la douleur, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance. Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient. Il y avait dans l'air un parfum d'insouciance. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure où tout a basculé, l'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné. Le jour et l'heure, le lieu précis de la douleur, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je sais que l'on n'oublie jamais. Le jour est là. L'instant précis même du chagrin, quand le téléphone a sonné. Le jour et l'heure, longtemps après l'on s'en souvient, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, et ce à tout jamais.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Paul Couturiou qui vient nous parler de son roman Les disparus de la cour d'or, publié aux éditions Terre de France, avec Raymond Hiss, trésorier de la DIL, et John Bulit. Alors, avant de donner la parole à Paul Couturiou, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle, Le vol de l'oiseau.
L'université de l'Oregon est en effervescence. Dans quelques jours, les championnats régionaux d'athlétisme vont avoir lieu à Eugene, la seconde ville la plus peuplée du secteur. Cindy viendra peut-être me voir sauter, car je suis fou de cette fille, de ses yeux bleus, de ses longs cheveux blonds qui ondulent dans le vent. C'est pendant la manif contre la guerre au Vietnam qu'on s'est rencontrés. Elle a trébuché sur une plaque d'égout et s'est écorchée vilainement le genou. C'est là que tout a commencé. Une main squab pour la relever, un regard fusionnel entre nous deux et mon mouchoir pour tamponner le sang qui coule, en récupérant tous deux assis sur le banc. Alors nous parlons longuement du conflit, des horreurs de la guerre, de musique. On boit un verre, puis deux, puis la, La Beat Génération nous emporte avec les rythmes de Jimi Hendrix, ceux des Beatles. Love and Peace, l'amour libre, que nous faisons le soir même chez moi. Elle est le lendemain matin, je me réveille, mais seul, dans mon lit froid. Elle a cependant laissé son numéro de téléphone sur la table de nuit. Mais qu'est-ce que tu fais, Dick? Je t'ai dit 100 fois de partir avec ton pied droit en avant, puis seulement après ton épaule pour pouvoir passer la barre plus facilement. Oh non, 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 tu fais l'inverse, c'est n'importe quoi. Non mais, écoutez, coach, vos entraînements avec les sauts en rouleau ventral, je n'y arrive pas. J'ai beau essayer de suivre vos conseils, je crois même que maintenant, je régresse. Oui, je sais, j'ai le don de rendre fou tous les entraîneurs que j'ai eus, qui s'échinent à me faire progresser avec cette technique, en vain. Non, le rouleau ventral, c'est pas pour moi, mais même si je saute 1m77, le pire, c'est que mes résultats sont meilleurs avec la technique du ciseau. Le ciseau, mais Dick Fosbury, tu n'es qu'un âne. Un âne de Portland qui veut rien entendre. Tout le monde saute comme ça sur la terre entière. Tes 1m80 que tu as fait une fois l'année dernière en ciseaux sont ton maximum. Tu resteras une puce au royaume des kangourous. Oh, débrouille-toi tout seul. Moi, je te laisse.
Abandonné sur le sautoir par son entraîneur, en ce 19 février 1968, Dick Fosbury réfléchit, tout en contemplant la barre. Il aperçoit aussi les nouveaux matelas, ceux en mousse polyuréthane que l'université vient juste d'acheter aux sauteurs à la perche et qui sont là, à côté, très amortissants et faciles à déplacer. Sur un coup de tête, le natif de Portland les empoigne, les installe à la place des sacs de sable amortisseurs habituels. Reculant sur la piste, laissant aller son instinct, il entame sa course. Tourne les épaules tout à coup 180 degrés et bat son record personnel de plus de 10 cm. Ah, c'est la révélation pour lui. Le futur ingénieur en génie civil n'aura alors de cesse que de perfectionner sa toute nouvelle invention. D'abord, en secret. Puis, devant son entraîneur soudain intéressé, lorsque les yeux écarquillés, il voit son poulain effacé une à une, des barres placées de plus en plus haut, et qu'il découvre le potentiel de sa technique pour le moins originale.
« Allô, Cindy ?»«
Bip, vous êtes sur un répondeur, laissez-moi un message. »«
Cindy, c'est moi Dick.
Dick Fosbury, tu te rappelles ?»
Ah, j'ai bien aimé les moments passés ensemble avec toi. J'ai déjà essayé 2 fois de t'appeler, mais sans succès. Écoute, je vais sauter dimanche 15 mars sur le Ewerfield, le grand stade de l'université de Gênes. Je crois qu'il y aura peut-être 15 000 personnes pour ce championnat. Et je représente mon club au son hauteur. Écoute, je suis sûr que je grimperai jusqu'aux étoiles si t'es là. Et même plus haut. Alors n'hésite pas à venir, hein. Viens ma jolie, viens ma gazelle, je t'embrasse.
Le stade affiche complet quelques jours plus tard. Tous les recruteurs de la firme Nike qui sponsorisent le meeting sont là, à la recherche d'athlètes d'exception, en devenir, qui pourront symboliser les valeurs de la marque. Il faut dire que l'université de Gênes est une des plus réputées des États-Unis, une usine à champions, qui avait lieu au stade de recevoir un titre en catégorie athlétisme Tracktown USA, c'est-à-dire la plus grande ville d'athlètes des USA. Le grand échalas filiforme d'1m95 aux cheveux roux me faisant face est le dernier des sauteurs encore en course avec moi. C'est le champion universitaire sortant de 1967. Mais il transpire plus que de raison. Son regard trahit la peur envers ma personne. Oh, dinguerie, mais qui est cet obscur inconnu qui répond au nom de Fosbury quelque chose et a juste assuré un saut à 1m80 et paraît-il avec une facilité déconcertante, une nonchalante évidente. Bizarrement, là, j'ai pas vu son saut car je rangeais mes affaires juste à ce moment-là, mais tous les autres concurrents
On poussait des exclamations de surprise quand il a passé la barre. Et il aurait sauté d'après eux, tenez-vous bien, en marche arrière. Très facilement en plus. Dans l'immédiat, nous ne sommes plus très loin des 2 mètres à présent. Et il n'a toujours pas sauté, préférant se préserver pour plus haut comme il le prétend. Mais attends, maintenant, c'est le moment de vérité. Je m'en vais te montrer qui est le maître, petit prétentieux.
Allongé sur le banc pour se détendre, Dick Fosbury est bien loin de toute cette agitation. Il cherche des yeux dans les tribunes, celles qui pourraient bien être là, le voir s'élever au-dessus du toit du monde de l'athlétisme. Le rouquin filiforme s'élance au moment où Dick l'aperçoit, enfin, au second rang, là, dans les tribunes, à gauche, dans sa robe d'organdi jaune, une jolie fleur de camélia dans les cheveux. Elle agite sa main, lui envoie des baisers. Le rouquin s'envole, retombe maladroitement sur la barre à 1,95 m. Alors c'est à lui, à présent, à Dick. Il lace à nouveau soigneusement ses 2 chaussures, l'une peinte au bout d'une couleur bleue, l'autre au bout d'une couleur jaune. Un hommage au jaune que Cindy semble adorer et qui deviendra sa signature plus tard chez Nike. Il prend bien le temps des 120 secondes réglementaires pour se concentrer, bien se concentrer sur ses pieds d'appel. C'est lancé. Et s'envoler dans son retourné acrobatique sur le dos. Le temps est suspendu, le stade retient son souffle, mais telle une météorite, il passe avec une facilité déconcertante la barre de métal, sous un tonnerre d'applaudissements et son premier essai. Dick serre alors très fort le mouchoir de Cindy, gardé soigneusement dans sa poche, celui qui lui a donné tout ce courage. Un petit signe timide de la main vers elle, auquel sa belle répond par une nouvelle salve de baisers. Le soleil apparaît lentement en ce mois de mars 1968 sur le Mount Hall encore enneigé qui surplombe la ville. C'est le moment où, au troisième essai, le rouquin filiforme réussit à passer la marque, la barre. La barre aussi tremble, mais ne tombe pas. Le public est debout, le record universitaire battu. Celui-ci demande alors la hauteur à 1,97 m, hauteur à laquelle il échoue à chaque fois. Dick Fosbury, déjà vainqueur au nombre d'essais, ne sautera pas cette hauteur, mais demande directement une barre à 2 mètres. 2 mètres ! De la folie pure pour un débutant. On est proche du record des USA de 2,02 m à l'époque. Le public s'est déplacé vers le sautoir et abandonne les autres épreuves. Les journalistes se massent alors sur le côté, mitraillent de leur flash ce sauteur inconnu étrange et talentueux. C'est le moment fatidique. Le stade tout entier s'est concentré sur l'événement, le public retient à nouveau son souffle lorsque Dick se présente devant le sautoir après un dernier regard vers Cindy. Il s'envole alors vers les sommets avec sa technique incroyable de retourner à moitié couché sur le dos, qu'ils feront rentrer dans l'histoire, comme le saut du feignant par certains, ou le vol de l'oiseau par d'autres. C'est le fameux Fosbury Flop. Sous une pluie d'applaudissements, il franchit la barre, remporte l'épreuve, le record universitaire, et l'amour de sa belle Cindy, avec qui il se mariera 2 ans après. Ah, c'était une journée fantastique pour lui. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que seulement 7 mois plus tard, sélectionné en outsider aux Jeux Olympiques de Mexico à près de 2200 mètres d'altitude, là où l'air se fait rare. Il va sauter 2,24 m et gagner la médaille d'or de ces Jeux, révolutionnant la discipline du saut en hauteur. L'archi-inconnu, Dick Fosbury, n'avait pas encore conscience qu'il venait d'écrire la plus grande page de l'histoire de sa discipline, chose unique en athlétisme. Il allait aussi léguer son nom à la hauteur. Aujourd'hui, tout le monde saute en Fosbury. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret à son sujet, que peu de gens connaissent. De nombreuses années plus tard, le 12 mars 2023, ce dernier décéda à Salt Lake City. Une septicémie
foudroyante. Le coroner de l'État d'Utah, intrigué par ce décès brutal, ordonna une autopsie. Alors c'est au cours de celle-ci que le médecin légiste découvrit, avec stupeur, caché dans chaque durillon de ses deux pieds, quatre minuscules ressorts que l'athlète s'était fait implanter secrètement et dont l'un s'était infecté, provoquant la septicémie fatale. Ouais, Dick Fosbury, le plus grand sauteur de l'histoire, était donc en fait monté sur ressort. Et ça, personne ne le savait jusqu'à ce jour. Enfin, sauf vous. Alors, chut, chut. Surtout, surtout, ne dites pas que c'est du vol, non, de la tricherie, mais dites plutôt que c'est le vol de l'oiseau Fosbury.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Il a existé, cet homme ?
Ah oui, Dick Fosbury, c'est la véritable histoire de... À part les ressorts, peut-être, mais enfin, ça, c'est un secret. Hein.
Oui, mais c'est un secret. Chut, alors. Alors, Paul, tu es un écrivain prolifique qui aborde différents genres, le polar, le roman historique, le roman plus personnel, les biographies, la BD, enfin, etc., etc., etc. Alors, Les Disparus de la Cour d'Or, c'est quoi ? Ça mélange un peu les genres ?
Ça mélange les genres, oui, ça mélange les époques surtout.
Oui, c'est ça.
On va se balader entre les années de guerre à Metz et 2018, qui est l'année où le musée de la Cour d'Or a refait entièrement l'entrée du musée, pour retrouver l'entrée originale, quelque part, de la chapelle des Récollets.
Mmh. Alors, Les Disparus de la Cour d'Or s'inspire d'un fait réel, raconte-nous.
Alors, ce fait, c'est Philippe Brunella, le directeur du musée de la Cour d'Or, qui me l'a raconté. La première fois qu'on s'est vu quasiment, c'est la première anecdote qu'il m'a raconté. Donc j'imagine que ça doit représenter quelque chose pour lui. À la fin de la guerre, très précisément dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944, le Gauleiter Burkel, qui dirigeait la région pendant la seconde annexion, a donné l'ordre de détruire les caisses contenant toutes les archives allemandes, parce qu'il sentait que c'était fini, que c'était la débâcle, il ne fallait surtout pas laisser de pièces compromettantes. Et il a aussi donné l'ordre de détruire une série de caisses qui renfermaient des incunables, des documents précieux, des parchemins. Vraiment, il y en avait pour, je crois, 1500 pièces environ, peut-être plus même, qui ont été détruites cette nuit-là. Ben, elles ont été détruites, c'est ce qu'on a supposé. Et puis, dans les années 60, il y a un vieux monsieur sur son lit de mort qui aurait, lors de sa confession ultime, avoué qu'il était... le soldat qui avait reçu l'ordre de détruire ces caisses et qui ne les a pas détruites et qui les a cachées, râle de faim. Il n'a jamais eu le temps de dire où il les avait dissimulés. On a cru qu'ils étaient... Pardon ?
Pas de chance.
Pas de chance, mais non. Alors, on a cru qu'elles étaient dans un des forts, peut-être du côté du Saint-Quentin, derrière un mur qui aurait été construit pour les protéger. Il y a eu des recherches qui ont été faites, ça n'a pas abouti. On s'est dit que ben, c'était... Bon, tant pis, il avait raconté n'importe quoi. Et dans les années 80, si je me souviens bien,
80.
Dans les années 80, il y a une feuille qui a été mise aux enchères en Allemagne, et c'est une feuille qui a été extraite d'un manuscrit. Et ce serait... un de ces manuscrits qui a disparu. Mais alors, est-ce que c'est la page une page de ce manuscrit disparu ou est-ce que c'est une page d'un autre exemplaire du même manuscrit ? On ne sait pas, mais le document a quand même été racheté par le musée de la Cour d'Or. Donc,
il y a un mystère.
Il y a un mystère. Et lors de ces travaux de 2018, Philippe Brunella était en réunion au Conseil général. Et il reçoit un coup de fil d'un des ouvriers qui dit « Monsieur le directeur, on est devant un mur, ça sonne creux, il y a une pièce derrière. » Il dit « Bougez pas, touchez à rien, j'arrive. » Donc il a quitté sa réunion. Il s'est précipité, le cœur évidemment au bord des dents. Et rien, non. La pièce était vide. Bon, on a découvert une pièce qui était inconnue, mais il n'y avait pas de documents dedans. Donc on ne sait pas aujourd'hui encore ce que sont devenus ces documents.
Ah ben, il ne faut pas le dire, ça. On ne sait pas, puisque là, le récit se déroule sur deux périodes distinctes, donc 1940-1945 et 2018. Alors parle-nous du personnage déjà de 2018, Gabriella, Michel Henberg et Philippe, le directeur du musée.
Alors je me suis amusé évidemment à garder à mon personnage Philippe, le directeur du musée, le prénom de Philippe Brunella, avec son accord. je trouvais ça un petit clin d'œil quand même. Et puis comme on était dans la réalité, puisque l'inauguration de la nouvelle entrée que j'évoque a bien eu lieu à la même date, avec les mêmes personnes. Donc ça me paraissait logique de garder son prénom. Michel Henberg et Gabriella, eux, sont des personnages inventés. Et Michel Henberg est un conservateur du musée, un vieux conservateur qui est à la veille de sa retraite. Il a une histoire liée à la région, puis il a une histoire d'amour avec cette femme qui est décédée aujourd'hui et qu'il continue à chérir et avec qui il continue à avoir des échanges. Bon, il n'est pas fou, il sait très bien qu'elle n'existe pas, que c'est une façon pour lui de continuer à tenir le coup, parce qu'il tenait tellement à elle. Et son autre passion, c'est la ville de Metz et ses documents.
Ses documents, il a passé sa vie à les chercher.
Qu'il essaye de retrouver. Alors, on apprendra pourquoi il veut les retrouver, c'est pour une raison très simple, c'est qu'au musée de la Cour d'Or, il y a une pièce qui est exceptionnelle. C'est un plafond au bestiaire qui se trouve... reconstitué ça prend toute une salle qui a été découverte dans une maison lors de la construction des galeries Lafayette. Et c'est une pièce unique parce qu'elle date du 12e, 13e siècle, on ne sait pas exactement, et ça représente un bestiaire assez étonnant. C'est pas forcément tous les animaux qu'on est habitué de voir dans un bestiaire. Et lui, son rêve, c'est de retrouver ces documents, parce que dans ces documents, il y en a un qui pourrait peut-être donner la clé au déchiffrement de ce plafond. Donc il est vraiment obsédé par la découverte de ces documents. Et Gabriella, elle vient de Corse, avec le soleil dans la peau, et les dents assez longues. Elle rêve d'arriver au Louvre, pas s'enterrer dans une région comme la Lorraine, région grise, triste. Sauf qu'au fil du temps, elle s'aperçoit que la Metz, en tout cas, est une ville qui est vraiment agréable, qui est plaisante, qui a des richesses qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle a quand même toujours cette envie d'arriver au Louvre et peut-être même plus haut on ne sait jamais. Et elle se dit que ces documents, si elle réussissait à mettre la main dessus, c'est la voie royale à ce moment-là. Donc elle va se rapprocher du vieux conservateur et elle va le pousser un petit peu, même au-delà de ses limites à lui, vers la recherche de ces documents.
Alors dans ce roman, on navigue de 2018 à 1944 et... on parle aussi beaucoup, bien sûr, des Allemands, parce que les Allemands ont réannexé l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et ce fut une période très difficile pour la population de ces provinces, parce qu'ils devaient choisir de rester ou de partir dans la France, qui était encore libre à ce moment-là. Quoi.
Oui, le choix.
Oui, le choix.
Ils n'ont pas vraiment eu le choix.
Non.
Mais c'est une période qui, moi, me tient à cœur. Alors, je ne suis pas messin, je ne suis même pas lorrain, je suis bruxellois d'origine. Mais
tu as des racines quand même.
Mes grands-parents habitaient au Sablon, à Metz. Donc, je n'ai passé toutes mes vacances là et je vis à Metz depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est pour moi ma ville de cœur. Et je me sens très sensibilisé à toute cette histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai vu mon grand-père porter le béret basque jusqu'à la fin de sa vie. Or, à l'époque de l'annexion, porter le béret basque, c'était vraiment un signe de provocation vis-à-vis de l'occupant, parce que c'était vraiment très français.
Oui.
Et, bon, voilà. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'était pas parti, pourquoi il était resté. Alors, ça, c'est, il y a toute une histoire derrière, mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation, qui n'ont pas eu, eux, n'ont pas eu le choix. Ils étaient là, ils étaient bien obligés de subir. Alors, autant dans la première annexion en 71, bah, petit à petit, les choses se sont faites gentiment, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas un cinglé comme Hitler, un homme aussi cruel, qui était à la tête. Bon, c'était une puissance étrangère, effectivement, ce n'était pas le choix des Français, mais c'était supportable, alors que dans les années 40-45, c'était totalement insupportable. Merci. Et ce qu'il y avait de terrible, c'est que ceux qui voulaient, entre guillemets, résister, comme ils étaient annexés, ils étaient devenus de facto allemands, ils n'étaient pas des résistants aux yeux de l'occupant. Ils étaient des traîtres. Donc, un traitement encore plus cruel à leur égard.
Alors, pour comprendre un peu ce qu'ont vécu ces gens-là, tu peux nous lire l'extrait que je t'avais demandé, s'il te plaît, merci.
La vue des troupes d'occupation sur la place d'armes avait réveillé des peurs viscérales et m'avait remis en tête des propos de mon père. Les Parisiens n'ont jamais compris notre situation. L'Alsace et la Lorraine n'ont pas été occupées en 1871. Elles ont été rattachées à l'Empire allemand. Je ne crois pas que nous serons défendus avec plus d'acharnement aujourd'hui qu'à l'époque. Nous deviendrons partie intégrante du Reich, ce qui veut dire qu'un jour, nos enfants seront contraints de rejoindre les jeunesses hitlériennes et que nos fils seront incorporés dans la Wehrmacht. Ceux qui refuseront connaîtront le sort réservé aux déserteurs. Et quand l'Allemagne nazie aura perdu cette guerre, car elle la perdra. Ils seront condamnés par les Français qui verront en eux des traîtres. Non, les Français ne comprendront jamais notre situation. En revanche, ils seront prompts à nous juger.
Ce qui n'est pas faux.
Oui, parce que c'est ça le plus terrible de cette région, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé les malgré nous, qui se sont fait mal voir après la guerre et dont on ne veut toujours pas parler aujourd'hui parce qu'on a honte, alors qu'il n'y a pas à avoir honte. Ce sont des victimes, ce sont des jeunes qui ont été obligés de porter l'uniforme de la Wehrmacht. S'ils ne le portaient pas, c'était les parents, c'était la famille qui payaient. Et donc, moi, je trouve que c'est terrible.
Alors situation. Qu'on était beaucoup plus indulgents avec ceux qui étaient au STO, en fait.
Bah oui, effectivement.
Alors que c'était un peu le même style.
Oui, puisqu'ils étaient aussi obligés d'aller travailler
en Allemagne.
Oui. En Allemagne, et bon, ils portaient peut-être pas le fusil, mais ils les construisaient. Ils construisaient les bombes, ils construisaient les V1, V2, etc. Donc,
oui, bien sûr.
Mais c'était pas un choix non plus.
Non. C'est clair. Alors, la personne qui parle, c'est Odile Waldner, bibliothécaire à Metz, donc à cette époque-là, qui, elle, choisit de rester en France, au contraire de ses parents.
Oui, parce qu'elle elle se sent une responsabilité vis-à-vis du patrimoine, justement, et de toute la dimension culturelle dont elle se sent, dont elle sent avoir la charge. Et... En fait, pourquoi ? Je pense souvent à la phrase de Winston Churchill au moment où, à cette belle époque de la guerre, le gouvernement anglais avait proposé de réduire le budget de la culture au profit du budget de l'armée. Winston Churchill a répondu, en tirant sans doute sur son gros cigare, mais alors pourquoi ce bâton ? Pourquoi ce bâton si on sacrifie la culture ? Et donc, c'est un petit peu la démarche d'Odile qui décide de rester pour aussi à la demande d'un membre d'un réseau.
On en parlera après.
Qui lui décide de rester pour protéger ses documents sur lesquels elle va veiller pendant toute la guerre, parce que pour elle, c'est important de préserver le patrimoine français qui est bon, quand même l'esprit de la Moselle aussi.
Oui, bien sûr. Alors l'allemand Edmund Hausen prend la direction des musées de Metz. Alors tu écris, je te cite, « Dès sa prise de fonction, le nouveau directeur avait procédé à un état des lieux de nos musées. Et bien sûr, il en était arrivé à la conclusion que ses prédécesseurs français avaient eu une vision dégénérée de l'histoire. » Dégénéré parce qu'en opposition totale avec le caractère allemand indiscutable de la Lorraine et de sa population, une réorganisation complète et urgente des musées s'imposait. Fin de citation. Alors pour assouvir un peuple, pardon, il faut nécessairement réécrire son histoire et modifier ainsi sa mémoire.
Ça aide en tout cas. Mais on sait très bien que quand on veut prendre possession d'un pays, c'est toujours bien d'essayer de travailler sur la mémoire, surtout des plus jeunes, puisqu'on imagine rester longtemps. C'est ce qu'ont fait les Américains vis-à-vis des Indiens, c'est ce qu'on a fait partout dans le monde, envoyer les enfants dans des écoles pour les franciser, américaniser, angliciser, etc.
Russifier
aussi. Et de toute façon, pour moi, toute l'histoire de ces guerres et des colonies, des trafics, etc. J'ai absolument pas culpabilisé en tant que occidental blanc. Paf, là je me fais descendre. Pour une raison très simple, c'est que de tout temps, il y a eu des migrations, il y a eu des invasions. Les Arabes sont montés jusqu'à Poitiers. Ils sont restés en Espagne pendant 8 siècles. Les Turcs sont arrivés aux portes de Vienne. Donc, faut arrêter de se battre la coulpe. Ce qu'on a fait n'est pas bien. Ce que les autres ont fait n'est pas bien. Cela dit, j'ai vécu 5 ans au Vietnam et dans un train, je parcourais 1000 kilomètres en train avec des Vietnamiens et j'ai parlé avec un vieux Vietnamien qui parlait le français et je lui disais, c'est triste aujourd'hui, vous voyez, vous avez remporté la guerre contre les Français, la guerre contre les Américains et en définitive, ben, c'est les Américains qui ont gagné puisqu'on voit des jeans partout, les McDo commencent à s'implanter, il y a toute cette culture. Et il m'a dit, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Il n'y a pas eu que du mal dans ce que les Français nous ont apporté. Il y a eu Yersin, il y a eu Pasteur, il y a eu aussi, et ça c'est le comble, et c'est ce détail que j'aime toujours raconter, il y a eu Alexandre de Rhodes. Et Alexandre de Rhodes, qui était un jésuite, a transcrit en caractère romain la langue vietnamienne. Or, jusqu'à cette époque-là, c'était les caractères chinois qui était l'écriture, c'est-à-dire que le peuple n'avait pas accès à l'écrit. Il n'y avait que les notables. Donc, Alexandre de Rhodes, en romanisant, a mis l'alphabétisation à la portée du peuple.
Oui, oui.
Et ça amène à quoi? Ça amène à... Parce que c'est la France qui a formé Ho Chi Minh, qui finalement chassera les Français de...
Ah oui, la boucle est bouclée, là. Alors, dans ton roman, on a beaucoup accès au journal d'Odile. Donc, c'est elle qui raconte l'histoire. Et tu fais revivre deux personnages qui existaient déjà dans un précédent roman, en passant par la Lorraine, publié en 2023. Alors, pourquoi reprendre le couple Nicole et François Escher dans ce récit?
Eh bien, quand j'ai commencé l'histoire d'Odile, je me suis dit, bah, il faudrait qu'il y ait... Que ce ne soit pas juste elle dans son coin qui décide de protéger. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus large. Et à partir du moment où les personnages de François et Nicole existaient déjà en passant par la Lorraine, je vais aller les récupérer. Mmh. Et c'est eux qui vont, puisque François, en tout cas, avait un réseau de passeurs, c'est lui qui va demander à Odile de rester et qui va lui donner les moyens de... se faire accepter et de garder son emploi, puisque le nouveau conservateur voulait virer les Français.
C'est un peu le ménage, oui.
Il en a quand même gardé, 8, si hein? je me souviens bien, 8, 8 voilà.
Ça, oui.
9 avec Odile.
Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi des histoires d'amour dans ce roman. Alors, deux histoires d'amour durant la période 40-45 et deux autres en 2018. Leurs amours sont plus ou moins heureuses, quand même.
Sont plus ou moins
heureuses.
Oui, parce qu'il y a déjà assez de souffrance pendant la guerre, donc si en plus on doit en rajouter dans les histoires d'amour. En passant par la Lorraine, l'histoire d'amour de François et Nicole connaît une relativement belle fin. Je dis relativement, oui. Parce que pas seulement. Mais c'était une histoire compliquée. Oui. Donc, dans celle-ci, c'est bien de... Mais là aussi, c'est une histoire d'amour qui finit tragiquement et qui n'est pas aussi simple qu'il paraît au départ. Puisque c'est une histoire d'amour entre Odile et un officier allemand.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il est pas mal, cet officier allemand. Bon, il a des côtés sombres, bien sûr, mais...
Oui, il a des côtés sombres, effectivement, mais pas par rapport à l'idéologie nazie.
Non.
Il la rejette entièrement. Lui, c'est un de la vieille école, c'est un policier à la base, policier criminel.
Oui.
De la criminelle,
oui.
Et qui est toujours dans l'esprit de la République de Weimar, pas du tout dans l'esprit nazi. Et, voilà. Mais il prépare l'avenir, il se dit que c'est bien de... Et puis, il y a l'amour qui apparaît, qui bouleverse tout.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi l'histoire d'amour du vieux conservateur, qui n'était pas non plus ce que ça semble être, en fait.
Oui, j'aime bien que les choses ne soient pas toutes blanches, toutes noires. Et souvent, nous, on a une vision d'une situation. Et puis, si on prend un autre regard, un regard d'une autre personne, elle a, elle, peut-être un autre regard. Bon, c'est vrai que Michel, lui, il a une vision idyllique de son couple avec sa défunte épouse. Mmh. Sa fille, elle va remettre les choses un petit peu plus à leur place en disant que c'était peut-être pas aussi idyllique que ça, que oui, certes, il aimait sa femme, mais que peut-être il faisait passer son travail avant et qu'il n'accordait pas la place qu'il fallait aux gens qu'il disait aimer.
Mmh. Alors, tous tes personnages évoluent. Seul Pierre Lemoine, qui est un ancien fiancé d'Odile, et reste détestable tout au long du roman. Alors, tu n'as pas réussi à lui trouver quelques qualités ?
Je ne l'aimais pas. Alors, non, il était là pour servir un petit peu de repoussoir et pour être tout ce que... pour incarner tout ce qu'il pouvait y avoir de détestable dans les collabos, dans tous ces gens qui essayaient de tirer profit d'une situation qui... où il n'y avait pas de profit à tirer, si ce n'est la liberté.
Alors, c'est jouissif ou difficile de créer un tel personnage ? Et tu avais un modèle ? Quelqu'un ?
Non, ça ne manque pas.
Hein. Oui.
J'en avais pas un en particulier,
oui.
Mais il y en a suffisamment.
Oui, t'en as regroupé.
Oui, oui, voilà. Non, ce n'est pas particulièrement jouissif. Moi, je préfère les personnages. Mais ce qui est jouissif, en revanche, c'est de ne pas dépeindre des personnages qui soient tout blancs ou tout noirs, comme cet officier allemand, il y en a eu à l'époque, il y en a eu, qui, eux, n'étaient pas du tout acquis à la cause. Et pourquoi condamner une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est respectable ?
Bien sûr.
Et qui... Bon, voilà.
Tout le monde ne pensait pas comme ça. Et c'était toujours des bien-pensants. Il y avait des choses à se reprocher, souvent.
Voilà, exactement. C'est souvent ceux qui sont le plus bien-pensants qui ont le plus à cacher et à se reprocher, je trouve.
Alors, tu mélanges allègrement la grande histoire à la petite histoire, la fiction et la réalité, c'est amusant. Mais ça doit être un peu compliqué, ça demande des recherches, non ?
Oui, ça demande des recherches, c'est sûr. Ça, c'est évident. Il y a toute la partie sur l'histoire du musée, tout, les détails comme on garde 8 employés, malgré tout, français, ça ne s'invente pas, c'est faut coller à la réalité. Et quand j'ai commencé mon roman, j'ai posé des questions à Philippe Brunella pour avoir des informations. J'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté. Et à la fin, je lui ai demandé de lire le roman.
Oui.
Et il m'a aidé en faisant des petites corrections, parfois sur le titre d'assistante de conservation, où ce que j'avais dit n'était pas juste le passage à la retraite de Michel, la manière dont je l'avais imaginé. Il m'a dit non, c'est pas possible qu'il demande à ce qu'on prolonge. Il aurait dû s'y prendre autrement. Il m'a donné les éléments. Donc ça m'a permis de donner encore une vision plus crédible, plus conforme à la réalité grâce à ces éléments-là.
Mmh. Alors ce roman est une ode à la ville de Metz. Tu avais envie de modifier le regard porté sur cette ville que bon nombre, excepté les Lorrains, prononcent très mal. Ils n'arrivent pas à dire Metz. C'est vrai, hein?
C'est vrai.
Mais enfin, faire dire à un de tes personnages, flâner dans cet autre musée à ciel ouvert aux allures de Toscane, tu vas un petit peu fort là, aux allures de Toscane.
Eh bien, figure-toi que il y a 2 ans, je suis allé en Italie avec ma compagne. On a passé une quinzaine de jours à Florence, à Venise. Enfin, on a circulé un petit peu, Venise, Toscane. Et au retour, quand on est arrivé à... J'oublie le nom du quai, mais enfin, il y a la rue des Jardins qui monte et sur le côté, il y a le quai. Cet endroit-là où il y a le vieux lavoir des thermes, on est arrivé, on a regardé ça et on s'est dit, mais on est en Toscane en fait. Et il y a pas mal d'endroits où je pourrais t'emmener à Metz et tu verrais qu'il y a vraiment des petits airs de Toscane. Ce qui n'est pas du tout incongru quand on sait que la présence italienne ne remonte pas uniquement à l'immigration des Italiens qui sont venus travailler dans les mines, mais que la place Saint-Louis, par exemple, c'était des Lombards qui étaient installés là, qui étaient des agents de chance. Et puis, bah, y a les arènes, et puis il y a les thermes. Donc, la présence latine, on va dire, oui, au sens plus large, romaine, italienne, est très prégnante à Metz.
Mm-hmm.
Il manque juste le soleil. Mais il n'y en a pas toujours à Florence.
Et les gondoles. Les gondoles.
Et les gondoles.
Enfin, c'est Venise.
Alors, en revanche, ton amour de la Lorraine ne va pas jusqu'à Nancy. Pourquoi diable as-tu fait dire à Gabriella qu'elle n'aimait pas Nancy?
Ah, c'est parce que... c'était une façon de traduire un petit peu cette tension qu'il y a entre les Nancéens.
C'est de moins fort.
C'est de moins en moins fort. Écoute, j'ai habité un très bref instant à Frouard. Mm. Et j'avais mal au ventre chaque fois que j'allais au Leclerc de Frouard.
Ah bon?
Oui, parce que quand je partais, il y avait je suppose que c'est une cabine d'électricité, un petit bâtiment très moche en béton. Et dessus, il était écrit « Mort au Messin ». J'ai jamais vu mort au Nancéen à Metz, nulle part.
Bah, j'ai jamais vu cette pancarte non plus.
Ah, chaque fois que j'y allais, il y avait ce mort au Messin. Je me dis, mince, ils y vont fort quand même. Moi, je pensais que la page était tournée, que c'était de l'histoire ancienne.
Bien sûr.
Et puis, bon, je suis bruxellois, installé à Metz, et on dit toujours que les convertis sont les pires.
Alors, tu fais également la part belle au musée de la Cour d'Or de Metz. Alors, même si je connais ce musée, tu arrives à nous donner l'envie d'y retourner quand même.
Mais il faut y aller.
Il faut y aller.
C'est, tout le monde venant à Metz se dit ah, on va à Pompidou, on va à Pompidou. Bon sang, mais arrêtez quoi. Pompidou, oui, d'accord, mais moi je trouve ça fait un peu bobo.
Oui.
Et c'est parfois de très mauvais goût ce qu'on y voit. Mais bon, c'est un avis très personnel. Et alors qu'au musée de la Cour d'Or, il y a des choses qui sont magnifiques. Et en plus, et c'est pas parce que Philippe est un ami que je dis ça, mais on a la chance d'avoir depuis quand même un certain nombre d'années un directeur du musée qui est un type, mais impressionnant. Le travail qu'il a fait, et récemment, je suis allé le voir au musée, et il m'a fait visiter de nouvelles ailes qui vont être ouvertes, où on va ressortir des collections. Enfin, ça, il en parlera mieux que moi. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il m'a dit, tu vois, là, il y a une dalle de béton qui est capable de supporter 15 tonnes. Alors, normalement, 5 tonnes, ça aurait été suffisant. Mais j'ai voulu 15 tonnes parce que, comme ça, mon successeur, si lui, un jour, il a envie de faire des travaux, mais ce sera déjà, là, il n'aura pas ça à faire. Je dis, un type qui projette
et qui facilite le travail
de son histoire et qui facilite la vie de son successeur, je trouve ça formidable, parce qu'il travaille vraiment pour le musée et pas pour sa gueule.
C'est un peu comme les politiques, quoi, si tu veux. C'est ça que tu veux dire.
Non, parce que les politiques, ils travaillent pour leur réélection. Les électeurs, ils n'ont rien à foutre, c'est bien connu. C'est juste leur réélection.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Lui, ne travaille pas pour sa réélection, puisqu'il ne sera plus là.
Ouais. Alors, tu fais un clin d'œil aussi au court-métrage qui a été tourné dans le musée, Le mort de la cour d'or. C'est toi qui as écrit le scénario, d'ailleurs.
Absolument, oui, oui. Oui. Et en fait, mon éditrice m'avait dit « Ah, ce serait bien que tu nous fasses un Terre de France, un vrai Terre de France, etc. » Et la première idée qui m'est venue, c'est ça. Donc, je lui ai envoyé le film en lui disant « Regarde, il y a peut-être là, parce que c'est une histoire que j'aimais bien. » Et elle l'a regardé, elle m'a dit « Écoute, c'est superbe, il y a tous les éléments, mais tu m'enlèves la partie roman policier et les morts et tout ça, l'enquête criminelle, et tu gardes les éléments de base, c'est-à-dire ces documents, et tu vas me faire un truc. » Donc, je me suis dit, OK, on part de quelque chose qui existe déjà, mais il faut en faire autre chose. Et c'était une espèce de challenge qui m'a bien plu, voilà, parce que c'est toujours une petite difficulté supplémentaire. Oui, c'était oui. Gide qui disait que l'art vit de contraintes et meurt de liberté.
Alors, tu es l'auteur de 6 documentaires, le scénariste de 6 documentaires sur ta région d'adoption, bien sûr,
oui.
Et d'un long métrage de fiction, c'est le mort de la cour d'or. Je suppose que l'écriture n'est pas la même pour un roman que pour un scénario.
Non, elle est effectivement très différente. C'est vraiment un autre regard. Ben, on m'a plus d'une fois dit que mes romans sont écrits comme si j'avais une caméra au bout du stylo.
Oui.
C'est très visuel, mais c'est quand même un tout autre travail. Et puis, c'est aussi un travail d'équipe où il faut écrire pour un réalisateur. Il doit y avoir une osmose entre le réalisateur, le scénariste et l'équipe. C'est pas un travail solitaire comme le travail du romancier.
Mm-hmm. Alors, tu as déjà des projets ?
Oui.
Tu as déjà commencé l'écriture d'un autre roman ?
Tout à fait, oui.
Oui ? Ça sera sur la Lorraine aussi ?
Ce sera aussi sur la Lorraine, oui, oui.
Bon, bah écoutez, le temps passe très très vite. Alors, pour savoir si les documents ont été retrouvés ou pas, il vous faudra lire le roman de Paul Couturier. Je vous assure, c'est très très passionnant. Alors, merci à Paul Couturier d'être venu nous parler de son roman Les Disparus de la Cour d'Or, publié aux éditions Terre de France. Merci à R.M. Moïse d'être venu nous présenter l'ADIL, le Salon du Livre de Villers et la remise du prix Victor Hugo qui sera décernée lors du salon du 18 mars. Merci à John Bullitt. 17 mars, pardon. Excusez-moi. C'est dimanche, de toute façon. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle Le vol de l'oiseau. Merci à Mathis qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Résister Sister de Charlélie Couture. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On s'était rencontrés un peu par hasard, interpénétrés, un jeu de regard. On avait même voulu croire qu'on avait le pouvoir de réécrire l'histoire, se dire des mots d'amour, se faire des caresses, se jurer que toujours. Comme autant de promesses, j'entends encore nos premiers murmures entre quatre murs. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother, résister, sister, autant de la crise comme autant de cerises. Résister, brother. Résister, sister. On avait peur de rien, tout nous était possible. Se dire que peut-être on se croyait invincible. Ni la pluie, ni la nuit n'avait vraiment d'emprise sur nous. j'aimais tout de toi, tes faux mouvements, ton corps sur les draps, au soleil levant, l'humour et tous les sentiments façonnent le présent. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother. Résister, sister. Au temps de la crise comme au temps des cerises, résister, brother. Résister, sister. Malgré tes galères de célibataire, je te voyais sourire et je voulais y croire. Aujourd'hui, ton départ interstellaire me fait penser que t'as lâché les amarres. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais faut résister, résister, brother. Résister, sister. Au temps de la crise, comme au temps des cerises. Résister, brother. Résister, sister.